Et je vais, pour commencer, enfin, pour ouvrir ces différents cours, ces moments de réflexion un peu approfondis, un peu suivis, je vous propose de suivre avec moi une réflexion, une étude de ce que j'ai appelé les manuscrits retrouvés de la science-fiction. Ça va devenir plus clair assez rapidement. Vous avez déjà lu le descriptif, je pense que vous n'êtes pas là tout à fait par hasard. Mais quelques mots, disons un petit caveat au départ. Donc, j'ai conçu ça un peu dans la logique d'un cours de master, donc un peu dans la logique d'une réflexion plutôt que d'une conférence. Hein, donc, c'est pas une présentation exhaustive de tout ce qu'on peut trouver sous le nom de ce que je vais désigner comme artefact science-fictionnel, mais vraiment une invitation à la réflexion. Et donc, comme je le disais avant que ça commence, un peu en petit comité. N'hésitez pas à intervenir, lever la main pour intervenir, demander des précisions ou proposer des interprétations. On va voir un petit peu comment les choses se font, comme c'est la première fois qu'on fait ça. J'attendais de voir un petit peu comment ça se faisait. Mais voilà, le but, c'est aussi de mener un petit peu une réflexion ensemble. Et si notamment des choses que je peux dire éventuellement vous semblent incomplètes ou pas suffisamment convaincantes, comme c'est un travail qui est pour moi aussi un travail en cours, tout retour de votre part sera le bienvenu. Hein. Je suis pas là pour dispenser une science, mais véritablement pour faire acte de recherche. Alors, manuscrit retrouvé de la science-fiction. Donc, manuscrit, ça va être un terme un peu limitatif, et retrouvé, c'est pas forcément le terme le plus adéquat. Mais nous sommes tout de même face à une technique littéraire qui est effectivement liée à la logique du manuscrit retrouvé. Donc, l'idée de, on ouvre la malle d'un grand-père, et tout d'un coup, il y a un manuscrit qui raconte la façon dont ce grand-père a vécu la première ou la Seconde Guerre mondiale, ça dépend de son âge propre. Donc tout d'un coup, des choses émergent où on a les lettres d'une religieuse portugaise qui tout d'un coup révèle toutes sortes de choses. Vous reconnaissez un petit peu ce type de technique littéraire, simplement, on va en reparler un peu, mais la façon de susciter un pseudo-document, de susciter un objet qui va valoir aussi bien par ce qu'il raconte que par sa simple existence. C'est-à-dire, ces conditions même d'existence deviennent un enjeu de réflexion, un enjeu même littéraire, dans un jeu qui est parfois un jeu métatextuel, où tout d'un coup, on se met à se demander comment l'objet peut être possible. Bon. Dans le cas de la science-fiction, dont je vais parler aujourd'hui, Richard Singelais, qui est un chercheur, un professeur québécois dont je vous recommande les travaux d'une manière générale, je vous donne une référence, mais il a également écrit un autre ouvrage qui s'appelle Fiction transfuge, qui est un ouvrage absolument extraordinaire pour comprendre justement des enjeux de la fiction contemporaine. Il a proposé, au travers de différentes réflexions, la définition suivante pour ce qu'il a appelé l'artefact science-fictionnel, c'est-à-dire un objet sémiotique dont l'énonciation, voire la fabrication, présuppose un univers de référence non pas réel, mais bien imaginaire, de sorte que l'objet en question se donne comme provenant de ce monde imaginaire. Alors, ce sont justement ces artefacts science-fictionnels dont je vais essayer de délimiter un petit peu la logique. Oui. Oui, je vais gloser un peu sur la définition, mais si on part de la définition de Richard Singelais, l'objet sémiotique, c'est ce qui a un trait au sens, qui organise un discours, c'est un discours ou une signification de manière générale, c'est-à-dire que cet objet sémiotique, ça peut aussi bien, on va le voir, être un texte, ce qui va m'intéresser au premier chef, parce que c'est plutôt la narration, la production de fiction par la narration qui m'intéresse, mais ça peut tout à fait être toutes sortes d'autres choses, c'est-à-dire des cartes, des tout objet qui va produire un sens, qui va donc être transmettre un message en fait. Hein. C'est l'idée de la sémiotique, c'est l'analyse des messages, l'analyse de la signification dans un discours. Et en fait, le côté objet sémiotique, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de dire, par exemple, si vous avez, il peut très bien y avoir un récit de science-fiction dans lequel on vous dit, nous avons trouvé un métal qui ne peut pas exister dans notre réalité. On a un bloc de métal. Bon, ce bloc de métal, en soi, il peut être intéressant dans un enjeu d'une histoire donnée, mais il ne dit rien. Il existe, mais il ne dit rien. Alors que si ce qu'on retrouve, c'est en fait un livre ou un manuscrit ou quelque chose qui raconte une histoire, explique quelque chose, eh bien tout d'un coup, l'enjeu devient double. Ce n'est pas seulement le fait qu'on ait trouvé un objet, c'est que cet objet en lui-même propose des éléments de signification. Et donc, la réflexion, enfin, le point de départ de notre réflexion, c'est justement ce qui se passe lorsque, justement, la science-fiction explore ce type d'objet, donne à voir ce type d'objet, des objets qui, en fait, valent aussi bien par leur existence que par ce qu'ils signifient. Donc, mais ça, donc, c'est le point de départ, c'est l'idée que derrière cet objet, il y a le monde imaginaire. Et alors, attention, j'ai donné un exemple qui peut vous induire en erreur, du moins, il faut que je précise. C'est que lorsque justement je faisais cette distinction avec, bon, mettons, il y a un objet en métal trouvé dans une histoire, on parle de cet objet en métal, un métal extraordinaire. Et à côté de ça, on a un livre extraordinaire dont on nous parle qui dit ou fait ce genre de choses. Il y a artefact science-fictionnel que dès lors qu'on nous donne à voir littéralement l'objet. C'est-à-dire que si on vous dit simplement, il y a un livre extraordinaire, mettons, le Necronomicon existe. Bon, ok, le Necronomicon existe. Mais personne ne peut le lire parce que ça rend fou. On le lit, on devient fou. Bon. Et donc, on ne vous le donne pas à lire, sinon vous allez devenir fou. Bon. Le moment où ça devient artefact science-fictionnel, c'est le moment où on vous cite, enfin Lovecraft notamment, vous cite deux vers censément traduits ou récupéré depuis le Necronomicon, où il est question de Cthulhu, sa demeure de Rillier, au fil des éons, on peut mourir même la mort, ce type de déclaration. Bah, le texte qu'on vous donne, il a un statut particulier. D'une certaine façon, il traverse la fiction, parce que ça devient non pas une histoire qu'on fait autour d'un livre, ça devient vraiment le texte, littéralement, qu'on peut lire si on ouvre le livre. Alors là, ça c'est extrêmement délimité, extrêmement réduit comme perspective, mais un certain nombre d'auteurs ont joué à développer cette idée-là de façon à ce que, eh bien, il y a un moment où en fait la bascule se fasse dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qu'on obtient, ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce n'est plus censé être un texte de notre monde qui nous parle d'un autre monde, mais carrément un objet qu'on lit comme si on était nous-mêmes dans un autre monde, en fait. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes décalés, qui devenons les destinataires d'un objet conçu pour d'autres personnes que nous. Alors, donc, en pratique, une petite cartographie rapide de ce que ça peut, des formes que ça peut prendre. Donc, toutes sortes de documents. Alors, souvent, ces documents sont dans les marges. C'est un faux paratexte. Ce qu'on appelle un paratexte, c'est tout ce qui entoure le texte, hein, et c'est un faux paratexte au sens où il est ajouté autour du texte. Ça va être, par exemple, on va vous donner la carte stellaire de tel environnement. On va éventuellement vous fournir des illustrations de telle ou telle créature. Bon, ce genre de choses. Alors, les illustrations ayant un statut un peu différent, si elle est signée d'un artiste ou d'un pseudo-photographe de la fiction, ça devient un artefact. Si c'est simplement une illustration pour faire joli, c'est un vrai paratexte, en quelque sorte. Et la chose la plus connue en science-fiction de ce point de vue-là, et ce par quoi je commencerai tout à l'heure, c'est l'exergue de type encyclopédie galactique. Hein. C'est-à-dire, au début d'un chapitre, au début d'un livre, on cite un ouvrage de référence qui vous explique quelque chose sur le monde de la fiction. Et ce quelque chose est souvent, alors déjà, pas si informatif que ça, est souvent piégé pour une raison ou une autre. Et puis surtout, il pose un problème, mais en tout cas, il pose une question qui est quel est cet objet dont on nous donne à lire littéralement le texte qui est posé de telle sorte que, d'une certaine façon, il se trouve après le récit qui nous est donné. C'est-à-dire qu'il dessine la possibilité d'une autre pratique. Canoniquement, enfin, l'exemple, disons, le plus connu de ça, enfin, dans la science-fiction, c'est la logique de l'Encyclopédia Galactica d'Asimov, c'est-à-dire que la logique de la fondation d'Asimov, c'est au départ de regrouper sur une planète, pendant que l'Empire galactique est en train de s'effondrer, regrouper sur une planète des chercheurs dont une des fonctions est de rédiger une Encyclopédia Galactica. Or, cette Encyclopédia Galactica, on nous la donne à lire. Et un des résultats automatiques de cette logique-là, c'est de se dire, quelles que soient les péripéties qu'on nous raconte, eh ben, des gens ont quand même réussi à écrire cette Encyclopédia Galactica. Donc, d'une certaine façon, ça pose deux extrémités, en fait. C'est-à-dire le moment du récit et un horizon lointain qu'on rejoint, en fait, enfin, qui est refermé par la réunion des deux. Mais alors, vous avez également, donc ça peut aller jusqu'à occuper tout l'espace du livre, hein, tout un ensemble de textes comme ça, fictionnels, artificiels, qui vont alterner avec le récit. Ça, typiquement, ça va être des choses de type des coupures de journaux, des éléments d'interview, tel ou tel personnage, qui vont vous donner un aperçu, bon, voilà. Et vous avez également des artefacts qui, eux, vont composer la quasi-totalité du livre. Un exemple massif et absolument extraordinaire, un tour de force particulier, c'est le fameux rêve de fer de Norman Spinrad, qui contient sous la couverture de Norman Spinrad que vous pouvez écouter et voir aux Utopiales, qui contient un roman entier, un roman signé Adolf Hitler, qui s'appelle Le Seigneur du Svastika. J'en parlerai à la fin de la présentation, mais c'est le type de tour de force qui peut être réalisé ainsi. Il y a eu d'autres tentatives du même genre, mais celui-là est, disons, l'exemple le plus massivement connu en science-fiction. Alors, à quoi ça sert? J'en ai déjà suggéré un certain nombre de choses, de fonctions. Ça sert à donner des informations, évidemment. Ça sert à créer des effets d'ironie, de contraste, hein, c'est-à-dire typiquement des effets de type une notice encyclopédique qui présente à quelqu'un qui est un général formidable et le récit nous le donne à voir pathétique, ratant complètement. Bon, voilà, vous avez ce type d'écart. Bon. Mais il y a également des effets d'attente, de suspense, c'est-à-dire que souvent, la notice biographique s'interrompt au moment où on arrive au moment intéressant, donc au moment où le récit commence. Et donc, il y a une façon de créer des choses là. Ou éventuellement, alors ça, c'est alerter sur des trous du récit, c'est pas exactement ça, mais c'est, disons, en fait, l'idée qu'il y ait une tension entre les informations dont vous disposez quand vous lisez et les informations dont vous auriez besoin pour tout comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, les passages justement d'artefacts science-fictionnels, quand ils alternent en fait avec le récit, sont destinés à dessiner un horizon beaucoup plus large qui va être ou non comblé par le récit. Hein, et souvent, il y a des lignes de fuite, des espaces qui sont béants, qui ne sont pas remplis par la narration. Alors, par ailleurs, il y a aussi, et ça c'est le cas pour un certain nombre d'objets, alors en général, de toute façon, c'est toujours possible d'ouvrir un livre à n'importe quelle page, mais le fait qu'il y ait des artefacts, ça crée la possibilité d'une lecture qui n'est pas une lecture linéaire. Hein. Alors, ça peut être le dispositif entier du texte qui est conçu ainsi, hein, la bibliothèque nomédienne, par exemple, dont je parlerai tout à l'heure, c'est clairement quelque chose qui peut potentiellement se lire en ouvrant à n'importe quel chapitre, parce que ce sont des textes qui sont conçus séparément les uns des autres, en fait. Même si une lecture linéaire est aussi possible, bien sûr, il peut y avoir une logique de type encyclopédie imaginaire, mais rien que les différentes exergues peuvent être en soi un exercice de lecture particulier que de reprendre un livre ou en tout cas de relire un livre en ne prenant en compte que ces textes-là, qui sont des fragments tout à fait autonomes, même si, comme je disais, il y a une tension qui se crée avec le récit, ils peuvent être lus de façon absolument autonome. Et d'ailleurs, il y a des passionnés tel ou tel cycle qui adorent justement, qui reproduisent les choses et qui essaient de créer des choses autour de ça. On verra un petit peu la question autour de Dune, par exemple. Et alors, il y a enfin, et ça c'est la logique de ces exercices-là, je parlais de tour de force tout à l'heure pour Rêve de fer. Même si Spinrad n'était pas dans une logique forcément de virtuosité en faisant cela, c'est tout de même un exercice de virtuosité pour la plupart des gens qui s'y essayent, les écrivains qui s'y essayent de produire quelque chose qui soit à la fois reconnaissable et acceptable comme objet lisible par nous, et en même temps, ils produisent quelque chose qui va en soi être un objet étrange. C'est-à-dire qu'il y a une des façons de décrire le fonctionnement de la science-fiction, c'est de le décrire en parlant, c'est ce que Darko Suvin, un autre théoricien important de la SF, ce que Darko Suvin appelle le novum, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y ait irruption d'un objet qui est en rupture avec ce que nous connaissons. L'exemple typique de Suvin, c'est le voyage dans le temps. C'est-à-dire, à un moment donné, quelqu'un dit, bim, le voyage dans le temps existe. Est possible, il est possible avec une machine. Et à partir de là, eh bien, quelque chose est changé dans ce qu'on peut raconter. Eh bien, si on applique cette logique du novum, de l'irruption, de quelque chose de nouveau dans le champ de la raison, eh bien, le fait qu'il existe des textes qui soient créés par une autre culture, une culture alternative que nous ne connaissons pas, ben, ça ouvre des possibilités, et notamment des possibilités esthétiques. C'est-à-dire que ça ouvre la possibilité de proposer quelque chose qui va être le reflet des capacités artistiques, de la culture, d'une civilisation qui n'est pas la nôtre, soit qui peut être une version alternative uchronique de la nôtre, soit qui peut être tout simplement une culture très, très lointaine pour une raison ou une autre. C'est une des raisons, je vais parler de fantasy dans un instant, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une certaine fascination. Alors ça vient de Tolkien, hein, en grande partie, qui a justement commencé comme ça. En fait, Tolkien, au départ, il a écrit des artefacts science-fictionnels, enfin, de fantasy, et puis après il s'est dit, tiens, mais au fait, si je faisais un roman pour avoir l'occasion de placer mes artefacts dans un cadre narratif, hein, je dis ça sans aucun, enfin, il y a aucun jugement de ma part, c'est au contraire, c'est même cette logique là c'est-à-dire que le premier effort de Tolkien, c'est proposer quelque chose qui pourrait être le produit d'une autre culture, d'une autre version de notre monde, et il l'intègre dans un fil narratif. Et alors, pour ma part, j'ai toujours un peu sauté les passages de chant des elfes, des choses comme ça. Mais il faut se dire que sans les passages des chants des elfes, il n'y aurait pas tout le récit qui a été fait pour pouvoir les mettre dedans. Hein. Bon, alors justement, je parle de Tolkien. Pourquoi singulariser la science-fiction ? Alors déjà, j'ai dit au départ que le manuscrit retrouvé, bon, ça, c'est une pratique littéraire extrêmement répandue. Il n'y a pas de spécificité de la science-fiction du point de vue de la technique narrative. C'est une orientation, une réorientation de la technique narrative standard, connue en littérature. En fantasy, je viens de le dire, ça a une importance symbolique très forte. C'est-à-dire que déjà, il y a toute la lignée tolkienienne qui fait que il est assez difficile d'avoir un roman de high fantasy qui ne contient pas, d'une manière ou d'une autre, des poèmes de telle ou telle catégorie. Bon, voilà. Il y a toujours cette espèce de tension vers l'idée qu'on va représenter. Alors, et évidemment, il y a toutes sortes de cartes, hein, fascinantes pour toutes sortes de raisons, des récits rapportés. Vous trouverez ces dispositifs facilement en fantasy aussi. Alors, en un sens, moi, je ne vise absolument pas, quand je parle de singulariser la science-fiction, je ne vise absolument pas à en faire une exception qui écarterait tous les autres modèles. Ce que je finis, ce que je dis, je vous laisse poser la question. Pour moi, au contraire, s'il y a singularité de la science-fiction, c'est au sein d'un continuum, au sein d'une continuité de texte qui, pour moi, suivent ce que j'appelle le régime ontologique matérialiste, c'est-à-dire un rapport à la réalité qui inscrit dans le texte le fait que vous êtes confronté à quelque chose qui doit être cohérent, concret, qui a une existence pratique. Et de ce point de vue-là, le régime ontologique matérialiste de la science-fiction n'est qu'une des variantes de choses qui sont aussi... qui ont évidemment des représentants dans le réalisme, au sens très large, et dans la fantasy. Donc il y a un continuum de ce point de vue-là, de pratique, qui fait que, de toute façon, la singularité de la science-fiction, elle se trouve à l'intérieur d'une continuité. Quelle était votre question ? Alors, l'exergue, c'est tout ce qui est au début d'un texte. Vous savez, en général, c'est aligné sur la droite. Ça va être justement, par exemple, une citation ça va souvent être une citation. Ça peut être une dédicace. Hein. Mettre en exergue, c'est mettre au tout début d'un texte. En fait, voilà. Effectivement, on ne va pas les voir en position d'exergue parce que je les ai sortis. Donc, vous faites bien de poser la question. Alors, ceci étant, donc, sans repousser les autres comme ne participant pas de cette logique-là, il me semble que on peut trouver une singularité, une particularité dans la science-fiction, dans le fait que j'ai tendance à considérer que lorsqu'il y a des artefacts littéraires de ce type, des pseudo-documents intégrés dans un récit de type réaliste, eh bien, ça ne met pas en doute la réalité de référence dont il est question, ça ne la met pas en jeu autrement que par les différents ajustements encyclopédiques classiques. Vous voyez, si on a par exemple un manuscrit qui raconte une grande conspiration des Illuminati, les Illuminati, ça peut exister, d'accord, c'est réaliste, et on comprend la logique de leur conspiration grâce à l'artefact. Bon, ouais. Mais ça ne remet pas en cause les fondements même de ce que nous allons considérer comme réel. Hein. Et inversement, enfin, et réciproquement, du côté du récit de fantasy, lorsque vous avez des chants des elfes qui vous racontent comment tel dieu a fait telle chose, finalement, tout ce que ça fait, c'est que ça vous donne des informations de façon assez tranquille sur le cadre dans lequel vous êtes. Ça n'implique pas, en général, de réflexion sur la nature même du réel. Or, même si c'est pas toujours, c'est pas la nature même du réel n'est pas toujours en cause en permanence dans la science-fiction, il me semble que cette tension et cet effort d'ajustement qui fait que quand on lit ou qu'on regarde de la science-fiction, eh bien, on essaye d'ajuster ce qu'on connaît du monde pour faire en sorte de l'intégrer à notre représentation de ce qui est en train de se passer. Donc le fait qu'on fait avancer en même temps l'intrigue et la connaissance du monde dans lequel l'intrigue se déroule. Mais il me semble que cette tension-là, elle prend un sens particulier lorsqu'en fait, eh bien, on l'obtient à travers justement ces artefacts. On va le voir un petit peu de ce point de vue-là. Donc, il me semble que, comme je l'écris là, que les récits de science-fiction attirent l'attention sur les conditions de production. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a des problèmes de temporalité? Est-ce que, il y a différentes astuces, différentes relations qui vont se créer? Il y a des choses qu'on va pouvoir comprendre sur le monde de la réalité dont il est question, simplement par des indices qui sont donnés dans tel ou tel document. Hein. Je pense un exemple assez fameux de ce point de vue-là, c'est, je pense, à l'appendice qui se trouve à la fin de 1984. Il y a un appendice sur la novlangue, enfin le novlangue, ou le néo-parlé, selon la traduction. Cet appendice, en fait, il fournit toute une série d'informations supplémentaires, mais il faut le lire entre les lignes pour commencer à comprendre comment certaines des choses qu'on a vues dans le roman fonctionnent. Donc, il y a une logique un peu plus forte qu'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas active, encore une fois, mais il y a une logique un peu plus forte qu'ailleurs de l'enquête pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de plus que ce que le document simplement semble présenter. Donc, il y a un double mouvement entre la motivation fictionnelle, donc ce qu'on peut appeler au sens large un effet de réel. Hein. Si je le lis et que c'est un texte publié, c'est qu'il existe vraiment un roman d'Adolf Hitler qui s'appelle Le Seigneur du Svastika, en quelque sorte. Et je peux vous dire, quand on lit le roman, on se met à comprendre, enfin le roman en question, le pseudo-roman, hein, on voit comment il peut avoir été écrit par cet Adolf Hitler alternatif. Et en même temps, de distanciation. Que suis-je vraiment être en train de lire? Alors justement, votre réaction-là de distanciation sur l'idée qu'Adolf Hitler écrive un roman de science-fiction, on est en permanence en train de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et c'est pas seulement qu'est-ce que Spinrad veut nous faire dire, c'est qu'est-ce que ça dit en général sur ce monde dans lequel un tel objet est possible. J'y reviendrai à la fin, mais je m'aperçois que je n'ai même pas encore commencé à lire mes choses. Comme d'habitude, je suis très bavard. Il y a une position ici qui est une position de l'esprit critique, l'esprit critique appliqué aussi bien disons, des informations en général qu'aux conditions même de l'information. Alors, très vite, même si c'est une notion qui peut avoir son importance, mais je n'ai pas tant que ça à l'étudier aujourd'hui, c'est que ça favorise énormément d'effets de métalepse, alors des effets de métalepse particuliers, je vais expliquer ce que c'est, des effets de métalepse particuliers dans le cas de la science-fiction, du fait justement des rapports à la réalité. La métalepse, c'est tout ce qui correspond à des franchissements de barrières. Hein. C'est-à-dire, par exemple, en gros, typiquement, ça va être, par exemple, un écrivain qui, tout d'un coup, rencontre un de ses personnages. Ces métalepses peuvent être organisées très, très libéralement. Quand vous avez la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, là-dedans, vous avez des personnages réels, des personnages de fiction qui se rencontrent, qui font toutes sortes de choses ensemble. Donc tout est brouillé. Ça, c'est une espèce de métalepse généralisée. Mais en général, la logique de métalepse, c'est une logique justement où il y a un franchissement tout d'un coup. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qu'on pensait être un niveau de fiction devient un niveau de réalité et inversement. Dans le cas des artefacts, vous pouvez avoir justement des logiques où c'est ce qu'il y a par exemple dans Dreamericana, tout d'un coup, en fait, l'auteur d'un roman se trouve en train de vivre les actions du roman qu'il est en train d'écrire en même temps, en fait. Donc, la vie même du roman devient l'écriture du roman. Bon. Et inversement, et alors ça, on n'est pas tout à fait dans la métalepse, puisque on sort du domaine de la fiction, mais en fait, il y a la possibilité que ces différents objets qui sont donnés comme venant d'autres mondes se matérialisent dans notre réalité. enfin, je veux dire, physiquement dans notre réalité. L'exemple du Necronomicon étant un exemple caractéristique, c'est-à-dire qu'on trouve des livres qui s'appellent Necronomicon. Bon. Évidemment, ce n'est pas le Necronomicon, ça ne peut pas l'être par définition, mais il y a cette envie de faire sortir. Et vous en verrez d'autres exemples, le Necronomicon n'étant pas un exemple que j'ai développé particulièrement. Et par ailleurs, et ça c'est à la fois quelque chose de très général et de très important, qui est que fondamentalement, l'idée c'est de nous faire ressentir ce que c'est que d'être dans notre monde. Vous avez déjà perçu cette idée-là, mais il y a cette idée qu'on se met à la place de quelqu'un pouvant recevoir l'objet. C'est pas du tout la même chose comme position de lecture que de voir le récit de quelqu'un, enfin de quelqu'un à qui il arrive des choses, et que de lire le compte-rendu que cette personne nous a fait, forcément. C'est pour ça qu'un ensemble de journaux intimes ou de biographies, d'autobiographies nous intéressent. Ben, quand on lit une autobiographie, on n'est pas investi, impliqué de la même façon que quand on lit une biographie. Et cet effet-là d'implication, de discours direct vers le lecteur, ça fait partie des effets qui sont recherchés dans cette logique-là. Alors, je m'engage un peu dans des exemples concrets pour qu'on voit un peu comment ça fonctionne. Un texte qui est assez... alors, je n'ai pas parlé du fantastique tout à l'heure. Enfin, plus exactement, j'avais mis une parenthèse hors fantastique. Alors, en fait, donc encore une fois, tout ça est un continuum. Et mon but n'est pas de dire que les artefacts font appel à des mécanismes fantastiques. Mais on va retrouver, dans cette logique de mise en tension du réel, on va retrouver des choses qui sont des techniques qui sont finalement proches de ce qu'on peut voir dans le fantastique, c'est-à-dire le fantastique tel que défini par Todorov, hein, pas le fantastique élargi qui s'est fait depuis, où bah, les loups-garous peuvent se promener dans la rue, et puis voilà, le fantastique pacifié, naturalisé, c'est le fantastique inquiétant, le fantastique de l'incertitude. Hein. Donc le fantastique de l'incertitude, c'est justement un fantastique dans lequel eh bien, la nature même des textes est soumise à caution. C'est-à-dire que vous lisez le récit du Horla, eh bien, vous avez les notes de quelqu'un qui vous dit ce qui lui est arrivé. Il a été victime d'une sorte de possession extraordinaire qu'il a rendu peu à peu, enfin, qu'il a fait sortir de ses gonds jusqu'à ce qu'il se suicide. Cette lecture-là, ce texte concret raconté à la première personne, c'est un artefact. Hein, mais la nature même de l'artefact vise à jouer sur le fait que, comme c'est lui qui raconte, et que du coup on n'a que son point de vue, eh bien, l'incertitude est constitutive de ce qu'il raconte. Parce que s'il est fou et qu'il a inventé tout ce qu'il raconte, bah, de toute façon, il va l'écrire comme si c'était vrai. Bon. Et s'il l'a vraiment vécu, eh bien, nous n'aurons rien d'autre que sa parole pour nous le dire. Bon. Donc, il y a cette logique d'incertitude dans le fait qu'on a un rapport direct à l'objet et à ce qui est transmis. Mais au-delà de ça, vous avez, alors ça c'était un exemple plus direct, au-delà de ça, vous avez justement des représentations de ce genre. Et là, le premier exemple, c'est un exemple qui est souvent invoqué pour parler justement de cette logique d'objets qui traversent les frontières. Hein. Là, on a la représentation d'une métalepse en fiction, justement, du franchissement de la chose. Dans une nouvelle de Borges, qui s'appelle Tlon Ugbar Orbis Tertius, et qui raconte comment, peu à peu, eh bien, des objets issus d'une autre réalité, alors, mais objets qui sont inventés, fabriqués ou pas, on ne sait pas très bien, se mettent à redéfinir ce que c'est que de vivre dans le monde du narrateur. C'est-à-dire que le narrateur explique que l'apparition d'objets qui parlent d'un autre monde ont peu à peu transformé la façon dont les gens vivaient dans leur propre monde. Et là, c'est un des éléments de la conclusion de cette nouvelle. Manuel, anthologie, résumé, version littérale, réimpression autorisée, réimpression pirate de la grande œuvre des hommes inondèrent et continuent à inonder la terre. Presque immédiatement, la réalité céda sur plus d'un point. Certes, elle ne demandait qu'à céder. Il y a 10 ans, il suffisait de n'importe quelle symétrie en l'apparence d'ordre, le matérialisme dialectique, l'antisémitisme, le nazisme, pour ébaubir les hommes. Comment ne pas se soumettre à Tlön, à la minutieuse et vaste évidence d'une planète ordonnée ? Tlön est peut-être un labyrinthe, mais un labyrinthe ourdi par des hommes et destiné à être déchiffré par des hommes. Alors ce déchiffrer, évidemment, on retrouve la logique du sémiotique, hein, la logique du signe. Mais en fait, donc là on n'a pas à proprement parler un artefact, puisqu'il n'y a pas de texte, il ne nous donne pas à lire ces textes-là, mais on a ce mécanisme-là, c'est-à-dire le mécanisme d'une circulation d'objets dont la présence même vise, enfin, peut nous interroger, peut nous faire nous questionner sur la nature même de notre réalité. Et là, il pose, et c'est une démarche fantastique, il pose que tout simplement la réalité cède, c'est-à-dire que les gens envisagent le monde différemment, voire le monde est changé par ces objets mêmes. Mais c'est pas exactement la logique de la science-fiction ici, enfin du moins c'est pas celle que je veux étudier, mais c'est, vous voyez là, la représentation de cette logique de métalepse, de franchissement de frontières ontologiques. Alors, quelque chose qui s'approche un peu plus, dans mon esprit en tout cas, de cette logique du rapport à l'artefact science-fictionnel, c'est des choses qu'on trouve justement chez Lovecraft, c'est-à-dire le paradigme de l'enquêteur. Et alors, ici, je vous renvoie par ailleurs à un excellent petit article de Laurent Klutzer que vous retrouvez dans Bifrost, dans lequel il décrit tout le mécanisme qui est en jeu dans l'appel de Cthulhu. Alors, ce qu'il décrit, il le décrit d'une façon qui brouille un petit peu ce qui se passe vraiment dans le texte de ce point de vue-là, mais la façon dont il le décrit est assez expressive. C'est-à-dire que vous avez des notes, on retrouve des notes. Dans ces notes, il est question de quelqu'un qui a retrouvé les notes de quelqu'un d'autre. Et dans ces différentes notes, il retrouve des documents que ce personnage-là avait. Bon. Donc vous avez en quelque sorte, en abîme ou en poupée gigogne, une série de décrochages qui sont des décrochages documentaires. C'est-à-dire qu'on est toujours à 1, 2, 3, 4, 5 degrés de l'objet dont il est question. L'objet dont il est question étant le grand Cthulhu, la puissance extraordinaire qui est représenté ici par Kaza. Ceci étant, le texte est malheureusement très pauvre artefact science-fiction fantastique, selon la manière dont on classe Lovecraft, est assez pauvre en texte de ce type. C'est-à-dire que c'est surtout des descriptions et des narrativisations de ces textes-là. Il y a une coupure de journal, par exemple, mais les passages les plus juteux, les plus intéressants sont racontés. Ils ne sont pas écrits sous forme de pseudo-documents. Mais on a déjà cette logique-là. Alors cette logique, c'est le sens de la citation 2 que je vous ai donnée, c'est justement le rapport au document. Et ce rapport au document, il me semble que justement, il s'inscrit, il donne à voir la posture qui est celle, me semble-t-il, du lecteur de l'artefact science-fictionnel. Donc c'est l'exécuteur testamentaire qui a récupéré toute une série de documents. Dans cette intention, je transportais chez moi à Boston tous ces dossiers et ces boîtes de rangement. La majeure partie des documents sera publiée plus tard par la Société américaine d'archéologie. Mais l'une des boîtes me parut extrêmement bizarre. Que pouvait signifier cet étrange bas-relief, ces notes décousues et ces vieilles coupures de journaux ? C'est-à-dire, là, ce qu'on voit, c'est que le départ de la réflexion, le départ de l'étude, ça n'est pas une enquête, ça n'est pas un fait mystérieux, ce sont tout simplement les objets, des documents retrouvés. Et le paradigme de l'enquête, le paradigme de l'enquêteur, c'est celui, pour moi, du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur peut être représenté comme plus ou moins actif ou plus ou moins passif, mais il me semble qu'un lecteur confronté à un artefact science-fictionnel, ou à un artefact de manière générale, a une posture nécessairement plus active. C'est ni péjoratif ni amélioratif. Simplement, il est par position tenu de réfléchir plus clairement à ce qui lui est raconté. Dans un roman épistolaire, pas du tout science-fiction, comme Les Liaisons dangereuses, une des choses que vous retrouvez à faire de toute façon, c'est à vous demander ce qui, dans le texte, est vrai ou pas vrai, en fonction du destinateur et du destinataire. Vous vous rendez compte, au fur et à mesure que les textes avancent, que ce que vous avez pensé juste n'était pas tout à fait juste, qu'il y a de la stratégie dans tel ou tel texte. Bon. Donc là, ça, c'est mis en évidence de ce point de vue-là. Mais là, c'est uniquement des relations amoureuses. Lorsqu'il est question de comprendre de quoi le monde est fait, ça devient encore plus élaboré. Donc gardons en tête cette logique de, du critique littéraire pour l'instant, mais la logique de l'enquêteur de l'enquête. Alors, C'est ce que je disais, enfin, ça, là j'avais commencé à le dire, mais justement dans la science-fiction, donc là si on fait le départ un petit peu avec une logique fantastique, la question n'est plus tellement de savoir si c'est vrai ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment une créature qu'on appelle le Horla, bon, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est fou qui raconte ça, bon, ce type d'incertitude n'est plus tellement en jeu dans la science-fiction, même si ça peut encore se manifester, mais ça invite à se poser la question, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur la nature de la réalité, éventuellement sur des représentations conflictuelles de la réalité, c'est-à-dire que des gens racontent des expériences différentes et c'est au lecteur de se faire une idée ou ce genre de choses. Bon. Mais plus de façon plus pacifiée, on va commencer par des choses relativement neutres de ce point de vue-là, eh bien, c'est une invitation à construire le monde à partir de fragments. Alors, pour donc déployer un monde imaginaire, un monde de fiction, eh bien, c'est une des techniques utilisées parfois de façon importante, parfois de façon extrêmement limitée, mais c'est une des techniques pour donner un aperçu, à comprendre un monde donné. Là, un extrait, donc, alors, une précision, hein, je vais vous donner à lire un certain nombre d'extraits d'une logique de type encyclopédie galactique ou document historique en exergue. Heyerdahl, Asimov et Herbert, que je vais prendre comme exemples principaux, utilisent assez libéralement les trois fonctions dont je vais parler. Hein. J'aurais pu prendre trois exemples tirés du même auteur. Hein. Donc, ce n'est pas pour dire que Heyerdahl ne fait qu'informer, alors que, bon, voilà. Mais il fallait que je fasse un choix à un moment donné. Alors là, ici, on a un exemple de ce qui se passe lorsqu'on a un segment d'information relativement, relativement simple qui vous donne directement des informations au départ. Hein. Là, donc vous avez d'abord un extrait, donc c'est la citation 3, un extrait tiré de Mittal, hein, de Heyerdahl, à propos d'une des civilisations, d'une des sociétés dont il est question dans le roman. L'ambition Warsh se résume à deux comportements, remplir son tableau de chasse et gravir les couleurs. Alors, il parle d'abord du tableau de chasse, mais j'ai coupé. La hiérarchie des couleurs, à l'inverse, est aussi dénuée de subtilité que celle des grades dans toutes les armées de l'histoire humaine. Et je coupe encore. Les violets sont les généraux les plus jeunes et les plus incultes de l'univers, mais s'ils démontrent qu'ils peuvent développer de bonnes facultés intellectuelles, ils quitteront la nomenclature si pour devenir sido, puis do. Bon, et alors, je précise avant de continuer, vous voyez qu'on a là la logique de l'artefact, on situe chronique mitane. Hein. Donc, s'il y a des chroniques mitanes, il faut bien qu'elles aient été écrites de façon postérieure au récit, parce que les conditions du récit ne permettent pas cela. Analyse sociale. Donc, il y a là, dans ces quelques mots-là, vous avez la possibilité qu'il y ait une ressaisie a posteriori des différents événements du roman. Hein. J'en dirai pas plus parce qu'on manque de contexte. Mais vous voyez que le simple fait qu'il y ait un titre d'un ouvrage vous donne déjà des indices sur le cadre temporel dans lequel s'inscrit le récit. Bon. Alors, ensuite, vous avez une citation, deux pages plus loin, d'un dialogue entre deux personnages. Donc un personnage d'inférieure hiérarchie qui dit « Mais je suis jaune, c'est une couleur mineure !» Pécadille, vous avez franchi deux couleurs en un an, les autres suivront en quelques mois. Dokézif nous arrangera ça. J'ai besoin d'un sido, cela vous convient ? Si cela lui convenait, c'était inespéré. Dokézif, le maître de chasse, aime sa race. San Saivi pouvait exiger une entorse au code de celui qui le faisait respecter. Alors, évidemment, là, on est in medias res, il y a eu 200 pages avant, on a eu le temps d'avoir une encyclopédie qui s'est étoffée. Hein. Donc, on a une idée un petit peu de ce que signifient les différents termes. Mais ce que vous voyez, c'est qu'à ce stade-là, l'encyclopédie de voyage, hein, ce que Richard Singlet appelait la xéno-encyclopédie qu'on se fait au contact des différents textes, donc les informations qu'on glane dans le texte, eh bien, n'étaient pas encore complètes. Puisque on ne savait pas encore ce que c'était que les si, les si do, les do, et on aperçoit que do kézif, c'est visiblement en fait ce qui ressemble à un nom, c'est d'abord un grade, que probablement tel autre personnage va s'appeler si do quelque chose. Bon, donc on se met en branle dans votre esprit de lecteur de façon fluide, parce que ici j'ai isolé des extraits, mais de façon fluide, différentes informations qui vont être disposées. À l'extérieur du récit, puis réintégré dans le récit selon un dialogue assez, assez simple. Et en général, c'est d'ailleurs dans cette idée-là qu'on aborde les différentes exergues, les différents moments documentaires. On se dit, bon, ben, ah là, il va me donner des informations. Hein. Sauf que le texte ne donne pas forcément, ne fait pas simplement que donner des informations. Il promet aussi. Là, c'est ce qu'on peut appeler la logique du suspense. Donc, au début de Fondation et Empire. Alors, les exergues du premier volume de Fix-Up Fondation de Asimov. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la fondation qui devait faire cette Encyclopédia Galactica. Ces exergues, ils sont très sages au départ. Hein, c'est-à-dire qu'ils nous donnent. Bon, et d'ailleurs, Asimov en général, c'est très sage. Ils nous donnent des informations. Ils nous disent voilà, tel personnage est important. Il a grandi à tel moment. Bon. Il nous pose un certain nombre de cadres. Et parfois, comme un peu comme ici, il commence à engager un peu le récit. Ici, c'est clairement... la logique de cette encyclopédie, c'est ce qu'on peut appeler une logique déceptive, c'est-à-dire que ça promet, mais ça ne donne rien. Hein. Ça informe faussement. Et là, donc, par exemple, donc c'est le tout début du volume Fondation et Empire, à propos de Belle Rios. Au cours de sa carrière relativement brève... Rios acquit le titre de dernier des impériaux et le mérita bien. Une étude de ses campagnes montre qu'il était l'égal de Purifoy en habileté stratégique et qu'il lui était peut-être supérieur quant à l'aptitude à manier les hommes. Le fait qu'il fût né sur le déclin de l'Empire ne lui permit pas d'égaler les exploits de Purifoy comme conquérant. Il eut pourtant sa chance quand, premier en cela des généraux de l'Empire, il affronta directement la Fondation. Et là, c'est la fin de la petite chose et on engage le récit. C'est-à-dire que là, la promesse, c'est... Il va se passer quelque chose. Ça va être un adversaire. Et en plus de ça, la notice encyclopédique fait monter les enjeux. C'est un très bon général. Il est même meilleur que cette figure dont on n'a jamais entendu parler, mais qui a l'air très bien. Bon, vous voyez, donc il y a un effet, vous voyez, de mirage, hein, de mirage encyclopédique qui fait que vous commencez à mettre en place tout un ensemble d'éléments à l'arrière-plan. On n'a pas besoin dans le récit ensuite que quelqu'un nous dise « Mais enfin, ce Belle Rios, c'est au moins l'égal de Purifoy, c'est déjà fait. » Et donc on a une façon très simple, très immédiate de donner des informations sans vraiment en donner, parce qu'on n'a rien de concret sur le personnage, et en même temps donner envie de lire et dessiner un premier enjeu. C'est-à-dire qu'avant même d'engager le récit, on sait déjà qu'il va être question d'une confrontation. Bon, vous voyez, ce type d'effet, là, encore une fois, c'est un effet relativement simple et délimité, mais c'est un effet important, parce que ça fait partie de cette logique un petit peu en deux temps qu'on a dans un ensemble de récits de ce type, c'est-à-dire une logique où va se dessiner dans l'espace des textes pseudo-documentaires une sorte de vue de dessus, qui nous dit, voilà, il s'est passé telle et telle chose. Et à l'intérieur du récit, eh bien, tout d'un coup, on a accès à la réalité concrète. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le point de vue lointain de l'encyclopédiste qui se dit, bon, bah oui, il était pas mal, ce général. Ça devient, mais comment est-ce qu'il a fait exactement? Comment est-ce qu'il se comportait? On dit qu'il maniait bien les hommes, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a une façon, enfin, c'est paradoxalement, le fait que ce pseudo-document existe, ça nous incite à considérer le récit qui se déploie ensuite comme une sorte de compte-rendu véridique des choses qu'il faudrait lire entre les lignes du document. Voyez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de contamination un peu paradoxale, parce que quand on est face à un récit standard, il n'est pas particulièrement plus véridique, enfin, il n'a pas l'air particulièrement plus véridique, mais il y a une sorte de contamination du fait que le document nous donne un cadre dont on nous dit, voilà, c'est du solide, ça a vraiment existé. Et ensuite, le récit ajoute... Eh bien, tous les éléments concrets qu'on ne connaît pas, qui ne passent pas dans l'histoire. Hein. C'est la vraie histoire, en quelque sorte, par opposition aux autres documents. Et alors, il y a en plus de cela, et comme je disais, ça n'est pas spécifique à Herbert par rapport à Heyerdahl, on peut trouver des effets du même genre chez Heyerdahl, il y a aussi une mise en tension possible, mise en tension qui va... commencer, qui va introduire un ensemble de doutes. C'est-à-dire que on ne sait plus très bien ce qu'on lit et quel est le statut de ce qu'on lit. Et alors là, c'est quand même quelque chose d'assez massif. Enfin, là, c'est un exemple qui peut être assez connu. Bon, on ne sait jamais s'il y a surtout des amateurs de Dune ici. C'est-à-dire que pendant tout ce volume de Dune qui, au départ, n'est pas du tout censé être un cycle extraordinaire avec des livres de tous les côtés, hein, qui est censé être un roman qui se tient en un seul volume, eh bien, pendant tout cet assez long roman, eh bien, vous avez à chaque fois, ou presque au début des chapitres, différents excerpts qui vont vous dire à quel point Paul Atreides, c'est quelqu'un de formidable. Et là, vous en avez un exemple ici, Paul Atreides. Saïd Muabdib étant celui qui devient celui qui devient une espèce de le Kwisatz Haderach, qui devient une sorte de messie, le messie de Dune. Et on a ce genre de texte, et ça, c'est le dernier texte qu'on a de ce genre, juste avant le chapitre où il gagne tout, il remporte tout ce qu'il a à faire. Et voilà, donc il était guerrier et mystique, féroce et saint. Il était retors et innocent, chevaleresque, sans pitié, moins qu'un dieu, plus qu'un homme. On ne peut mesurer Muabdib selon les données ordinaires. Au moment de son triomphe, il devina que la mort le guettait et accepta pourtant la traîtrise. Peut-on dire qu'il le fit pour obéir à son sens de la justice? Quelle justice en ce cas? Car souvenez-vous bien, nous parlons du Muabdib qui revêtit ses tambours de la peau de ses ennemis, qui rejeta toutes les conventions de son passé ducal en déclarant « Je suis le Kwisatz Haderach, cette raison me suffit ». Extrait de l'éveil d'Arrakis par la princesse Irulan. Alors, j'ai mal anticipé sur ce que je voulais dire. Quand on lit ça, on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans le chapitre d'après. J'ai dit, il va gagner tout. Bon, on n'en sait rien. Hein. Là, il accepte la traîtrise. Peut-être qu'il pourrait mourir. Encore une fois, c'est un volume qui n'appelle pas forcément de suite, hein, le fait qu'après il devienne un empereur extraordinaire. Bon, on ne le sait pas forcément hein, quand on lit ce volume. Et ce n'était pas forcément prévu. Donc là, il y a un effet de suspense indirect. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien. Mais ce n'est pas sur cet effet de suspense que je veux attirer votre attention. Sur le fait que là, vous avez un apologue assez considérable qui, évidemment, renforce encore la stature du personnage principal. Bon, bien sûr. Mais cet apologue, il est écrit par une certaine princesse Irulan. Et cette princesse Irulan, depuis le début ou presque, quasiment tous les textes sont signés d'elle. Elle en a fait plein. Elle a une bibliographie extraordinaire sur les personnages dont il est question. Et elle raconte ce genre de choses. Et on a déjà des idées de qui il s'agit. Déjà, c'est une princesse. Bon, on sait qu'en fait, c'est la fille de l'empereur, parce qu'on a déjà eu des indices à ce sujet un peu plus tôt. Et donc, on a quelqu'un qui est extrêmement bien placé pour parler de toutes ces choses-là, qui a écrit une biographie extensive et dont la parole nous a servi à comprendre des choses. C'est-à-dire que nous nous sommes aidés de ces documents signés de la princesse Irulan au cours de notre lecture. C'est une de nos sources d'informations et de réflexions, et grâce à elle, nous avons mieux compris le roman. Et ce qui vous est indiqué à la dernière page, c'est que cette princesse va se marier avec Muabdib, sauf que, en fait, elle va être reléguée au rang de concubine. Hein, et voilà ce qui est dit à la vraie femme, en quelque sorte, de Paul Atréides. Vois donc cette princesse là-bas, si hautaine, si confiante. On dit qu'elle a des prétentions littéraires. Espérons que ça remplisse son existence, car elle n'aura que peu de choses en dehors. Et donc, tous ces textes qu'on a lus, qui nous ont aidés à nourrir notre réflexion, sont en fait, en grande partie, un trompe-l'œil. C'est-à-dire que c'est le produit de l'imagination débordante de quelqu'un qui n'avait pas accès au vrai personnage. C'est quelqu'un qui a été, en fait, assez lointain et qui a reconstruit différentes figures et qui a reconstruit, mais qui, en plus, en reconstruisant cette chose-là, a essayé de se donner une stature. C'est-à-dire qu'on peut encore plus soupçonner ce qui a été écrit dans ces textes-là, dès lors que, justement, la personne qui les a écrits avait intérêt à se pousser du col, en quelque sorte. Ce n'est pas quelqu'un de neutre, c'est quelqu'un qui veut se valoriser en parlant de son objet. Donc, je parlais tout à l'heure de lecture non linéaire. Si vous commencez à relire les différents textes, vous n'allez pas y trouver énormément d'indices, de double sens, et ainsi de suite, mais vous allez quand même les lire différemment. Quand vous commencez à savoir de qui il s'agit, vous n'allez pas les lire pareil. Et ça fait partie du dispositif de Herbert, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une difficulté d'interprétation. Alors, je n'ai pas mis d'exemple de ce type-là, mais il y a aussi, bien sûr, un principe de contradiction. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelque chose, je l'ai mentionné tout à l'heure, le grand empereur, et puis après on voit le grand empereur qui s'effondre en pleurant et qui fait n'importe quoi. Bon, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une différence entre une chronique officielle et la réalité du récit. Hein, ou inversement, vous pouvez avoir. Je crois que Asimov fait ça dans un de ses textes où on a. Non, c'est pas un artefact, mais ça m'avait beaucoup frappé. Où on voit une statue à la gloire d'une personne extraordinaire qui a résisté encore et toujours à l'envahisseur, en gros. Et on comprend dans le récit que cette personne-là n'a été qu'un instrument pour la personne qui semblait être l'oppresseur. Donc un faux dictateur qui a fait en sorte de faire avancer. Bon, voilà. Donc en gros, le signe de la statue était un signe trompeur au départ. Bref, on a ce type de dispositif, c'est-à-dire une opposition entre le texte, entre l'artefact. Oula. Et la chose. Alors, j'avance un petit peu. Je vais aller traverser vite l'hypothéticologie, même si la bibliothèque nomédienne a tout à fait, mérite tout à fait le coup d'œil. Alors, la bibliothèque nomédienne, donc, c'est un alors, ça se présente comme une série de textes de statuts très très différents qui parlent tous d'un pays, une sorte d'archipel qui s'appelle la Nomédie, dont on ne sait pas où elle est, on a perdu toute trace, on est en 2052, quelque chose comme ça, et on essaie de reconstituer différents documents qui parlent de gens qui ont cherché à trouver la Nomédie sans vraiment jamais arriver à la trouver. Et donc la question se pose, donc les textes sont censés exister, même s'ils viennent de 2050, mais ils nous parlent objectivement de quelque chose qui n'est pas prouvé par les textes eux-mêmes. Bon, donc il y a un jeu évidemment textuel ici, là-dessus, et ce qui m'a semblé le plus savoureux, c'était ces extraits de deux articles, en fait, surtout un article, qui explique par une logique un peu délirante comment, eh bien, plus on se pose des questions sur la Nomédie, plus elle a de chances d'exister, en gros, en quelque sorte. Hein. Et donc, de la même façon, il me semble que ce que ça décrit, parce qu'en fait, bon, on va pas lire le texte de ce point de vue-là, mais il y a l'idée, enfin, on va lire la dernière hypothèse. Hein, la dernière hypothèse, l'idée de l'hypothéticologie, donc la discipline du professeur McGregor, là, l'idée de l'hypothéticologie, c'est que si une hypothèse est posée après une deuxième hypothèse et que cette deuxième hypothèse inclut les possibilités de la première, eh bien, elle a plus de chances d'être vraie que la précédente. Et donc, plus on fait d'hypothèses qui incluent les hypothèses précédentes, plus la dernière a des chances d'être vraie. Bon, c'est évidemment complètement délirant, la question n'est pas là. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ça désigne le processus même de l'accumulation. C'est-à-dire qu'en fait, plus on accumule des pseudo-documents sur une réalité qui n'existe pas, plus eh bien, on se met à créer des liens entre ces différents documents et entre ces différents éléments, et plus on se met à accorder, non pas une existence réelle, c'est la question n'est pas là, mais plus on se met à faire exister dans notre esprit la fiction dont il est question. Je passe assez vite là-dessus. Ce qui m'intéresse, enfin ce qui m'intéressait, bon, ça mériterait une étude un peu plus complète que ce que je peux faire dans ce temps-là, et je veux passer à d'autres aspects. Mais c'est un texte extrêmement ludique. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que c'est un volume extrêmement ludique dans lequel finalement on voit des gens qui jouent avec l'idée même de ce que c'est que produire un texte sur quelque chose qui n'existe pas. Et fondamentalement, ce projet-là, qui au départ est un projet d'écriture collective, il est expliqué dans la postface de l'ouvrage. Et ce projet de la bibliothèque nomédienne, c'est le résultat d'une écriture collective menée en parallèle, enfin expérimentale en quelque sorte. Et la logique de cette écriture, c'est de petit à petit poser une sorte de jalon pour faire accéder de plus en plus la Nomédie à une forme d'existence. Et ce qui est indiqué donc vers la fin de la postface en question, c'est ce que vous avez à la page 3. Vous l'avez compris. Maintenant, c'est à vous, lecteur de la bibliothèque, de jouer. La forme de la Nomédie a été dessinée. Il faut désormais la remplir, la faire exister, la réaliser. Alors, c'est-à-dire que là, on est dans une logique qui est la logique de Tlönnugbar Orbis Tertius. Hein, donc, l'idée qu'à un moment donné, les gens qui pensent que cette chose-là mérite d'exister, se mette à la faire exister, en quelque sorte, donc la possibilité d'un franchissement. Et c'est vraiment représenté ici sous la forme d'une activité ludique, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire comme si, faire comme si la Nomédie pouvait exister, et puis à un moment donné, à force de jouer, eh bien, on finit par perdre le sens de la frontière entre le jeu et la réalité. Non pas au sens négatif, mais au sens où on accompagne la réalité de ce point de vue-là. Alors, cette logique, en fait, c'est une logique de franchissement des frontières de la fiction qui peut mener, alors je parlais tout à l'heure de différents objets du Necronomicon, ça peut mener au cosplay, par exemple, ou ce type de choses. Hein. C'est-à-dire que, en deçà même du cosplay, sans forcément se mettre soi-même en scène, eh bien, on a une logique qui est logique non plus, quand je parle de monde de fiction, au départ, je l'emploie surtout pour parler d'un monde de fiction référencé dans une fiction, c'est-à-dire voilà, il y a le monde de Dune, au départ bah, c'est le monde qui est raconté par le roman et qui est mis en scène d'une manière ou d'une autre par le roman. L'idée de monde, et c'est une idée qui est développé notamment par Anne Besson, qui a beaucoup réfléchi sur ces questions, et je vous recommande son ouvrage, qui s'appelle « Constellation » à cet égard. L'idée de monde, elle peut se comprendre de façon beaucoup plus large, comme la construction de monde à une échelle qui dépasse largement une œuvre donnée, une œuvre particulière, c'est-à-dire la façon de mettre en jeu des passerelles entre différentes œuvres. C'est ce qu'on retrouve dans les logiques transmédiatiques. Bon, je ne vais pas en parler, ce n'est pas mon sujet, mais c'est d'une manière générale l'idée qu'on va faire exister, prolonger au-delà d'une œuvre ou de plusieurs œuvres des éléments supplémentaires. Et vous reconnaissez tout ce qui est de l'ordre de la fanfiction, tout ce qui est de l'ordre de la création à partir d'eux. C'est aussi ce qu'on retrouve dans une logique de type la Wikipédia, hein, c'est-à-dire l'encyclopédie de Star Wars dans laquelle on vous présente sous un format encyclopédique la biographie de même du plus misérable petit personnage qu'on aperçoit dans un coin sur lesquels toutes sortes d'informations ont été accumulées de façon canonique. Et donc, il y a la possibilité de faire accéder à une existence autonome des informations ou des documents sur un monde donné. Évidemment, un certain nombre d'écrivains ou de créateurs peuvent le faire. Par ailleurs, donner à voir des documents qui n'ont pas fait imprimer, mais ils le mettent sur leur site ou ce genre de choses. Alors, dernier aspect sur cette logique de déployer un monde, je voulais vous donner un exemple de quelque chose qui n'était pas tout à fait un champ de Delphes de Tolkien. Hein. Donc, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'aime beaucoup Tolkien. Mais c'est pour en parler à un autre niveau, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas... Alors, on pourrait trouver des choses qui sont exactement du même ordre que ce que fait Tolkien dans la science-fiction. Mais là, j'ai voulu trouver un exemple qui joue sur deux tableaux. C'est-à-dire que on a dans ce roman de Pierre Bordage, que vous pouvez également écouter sur le festival, vous le savez bien, dans ce roman de Pierre Bordage qui s'appelle Les Fables de l'Impur, il y a production d'un récit qui est post-apocalyptique. Enfin, on est dans une société dans laquelle des chimères, des hommes animaux ont conçu une société. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je vous engage de toute façon à lire le roman. Ce récit s'appelle dans l'ensemble Les Fables de l'Impur. Mais il donne à lire au début de chaque chapitre un extrait ou un court texte complet, comme c'est le cas ici, de quelque chose qui est désigné comme étant les fabliaux de l'Impur. Donc quelque chose de différent, hein, mais qui pointe vers le fait que pourquoi ça s'appelle les fables de l'impur. D'une certaine façon, au départ, je crois que c'est surtout parce que ça contient les fabliaux. Hein. Donc il y a quand même une mise en valeur de ces textes-là par la proximité en termes de titre. Bon. Et alors, le récit des fables de l'impur, sans révéler ce qui s'y passe, donne lieu à une compréhension progressive de comment on en est arrivé là, comment se fait-il qu'il y ait des hommes animaux, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cela. Et deux éléments importants dans le récit, c'est la compréhension du véritable statut de ce qu'on appelle l'impur, donc la divinité protectrice lointaine qui est... l'impur, je vous laisse reconstituer si vous voulez la logique. Et il y a une sorte d'ennemi caché qui se révèle peu à peu, qui sont les Croades, qui sont des hommes corbeaux, qui sont les freux de la génétie, qui sont les ennemis en fait, hein, une espèce de créatures diaboliques qui veulent à tout prix faire régresser les hommes animaux vers un stade animal. Donc il y a un certain nombre de fabliaux qui donnent des informations, exactement comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui permettent de comprendre comment la société fonctionne, quelles sont les relations entre les différents personnages. Bon. Mais ils sont présentés, alors c'est la logique du fabliau, ils sont présentés comme les fables de La Fontaine, hein, enfin en fait, comme des courts textes qui vont donner une morale, qui vont permettre de comprendre comment se comporter en société en général. Et au fur et à mesure que le texte progresse, eh bien, vous avez des textes un peu plus ambigus comme celui-là. Et alors, le premier niveau de lecture de ces textes-là, en même temps que comme source d'information, le premier niveau de lecture, c'est évidemment un niveau de lecture de type qu'est-ce qu'on peut faire comme œuvre d'art ? Voilà, vous avez un poème de cette société, exactement comme vous avez un poème des elfes. Donc vous avez un reflet de la production culturelle de cette époque. Mais dans ce reflet de la production culturelle se cache une question. Alors voilà le texte tel qu'il est donné. Un dieu descendit sur terre et apparut à un vieux croise. Je n'aime pas béret de la façon dont toi et les tiens traitez mes créatures. Je n'aime pas béret de la façon dont vous les avez créées, dit le croise. C'est pas à toi de juger ces choses. C'est pas à vous d'intervenir dans nos affaires. Ton ingratitude me peine, dit le dieu. Fallait pas nous créer si vous vouliez avoir la paix. Retournez en don d'où vous venez. Ici, il n'y a plus de place pour vous. Et Dieu s'en repart en son paradis de lumière, où coulent depuis ce jour ses larmes de tristesse, qui tombent en pluie amère sur la terre et ses habitants. Le Dieu n'avait pas tort, le vieux Croase non plus. Les dieux eux-mêmes ne savent pas quel grand mystère se cache sous leur création. Alors, ici, là, on est sorti de l'information sur la société. De toute façon, c'est une scène mythique. Hein. Le dieu qui vient sur Terre, c'est, de toute façon, on est dans le mythe. Le vieux Croase, on ne sait pas très bien qui c'est non plus dans la société, parce qu'en fait, les Croases, ils n'existent pas. Ils sont cachés. Qui peut écrire sur les Croases? Pourquoi? Comment? Et qui, surtout, est en position de dire « Le dieu n'avait pas tort, le vieux Croase non plus ». C'est quelqu'un qui est encore au-dessus. Et la question dont je parlais, c'est « Mais qui a bien pu écrire ces fabliaux ?» Au départ, quand on les lit, on a tendance à les prendre comme une sorte d'expression de culture populaire, hein, c'est-à-dire des choses que les gens peuvent se dire entre eux. Ça y ressemble. Simplement, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un enjeu sur la question de savoir mais qui a pu écrire ça, pourquoi existe-t-il et que donne-t-il à comprendre exactement? Parce qu'ils ont souvent une morale paradoxale, ils éclairent les mécanismes de la société, mais surtout ils les éclairent d'une manière souvent ironique et subversive. Et donc, il me semble qu'une hypothèse importante, mais je vais faire ça ne révèle pas grand-chose hein, par rapport à ça, mais une hypothèse importante, c'est que, tout simplement, la personne qui les a écrits, d'après moi, c'est le personnage principal de l'histoire. C'est-à-dire celui qui, au fur et à mesure que nous lisons, acquiert des informations sur cette société. Et en fait, ce que nous avons de façon interactive, en dialogue avec le récit, c'est le résultat de ces informations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux moments temporels importants, exactement que pour l'Encyclopédia Galactica, qui est écrite bien longtemps après et qui a stabilisé les choses. Bien là, vous avez en fait un rapport possible d'interrogation de cette création culturelle, non pas simplement comme reflet d'une société, mais comme objet littéraire engagé visant à subvertir la société même, dont nous découvrons peu à peu à quel point elle est non pas corrompue, mais en tout cas mal posée, hein, mal fondée. Et donc, il me semble que nous avons en fait la possibilité de nous interroger, là encore, de revenir en arrière et nous interroger sur le statut réel du texte tel qu'il est donné. Est-ce que ça nous invite à penser sur un au-delà du récit? C'est-à-dire que ça permet aussi d'imaginer, pour combler le trou, ce qui se passe une fois que le récit est terminé, pour qu'il y ait la possibilité de sa production de fabliaux, en fait. Alors, bon, dans un plan initial théorique, je suis censé m'arrêter à peu près maintenant. Je vais quand même continuer un peu. Je vous laisserai la possibilité, bien sûr, de m'interroger, mais je continue un peu. Alors, j'aimerais maintenant, alors c'est complémentaire, hein, bien sûr, ce n'est qu'une extension par rapport à ce que nous avons déjà vu. J'aimerais maintenant aborder la question de la polytextualité. Hein. La polytextualité, c'est quelque chose de tout à fait repéré en littérature. C'est moi qui fais du bruit bizarre, là. Dans ces éléments-là, il y a, dans les exemples leur correspondant, il y a notamment Manhattan Transfer de John Dos Passos, c'est-à-dire l'idée que vous allez avoir un aperçu de différents aspects de la société par un dispositif qui va être un dispositif polyphonique, polytextuel et polyphonique, c'est-à-dire plusieurs points de vue, plusieurs voix, plusieurs sources d'informations qui vont tous ensemble composer quelque chose de complet. Alors, de ce point de vue-là, la couverture ici, je crois bien que c'est une couverture de Manchu, la couverture est représentative de cette logique-là, c'est-à-dire la logique du collage, la logique de différents canaux de diffusion qui donnent l'information. Littérairement, dans le dispositif littéraire, cette logique-là, elle se détermine par ce que je vous ai montré là, donc un aperçu du sommaire, parce que c'était vraiment très difficile de vous donner des extraits qui permettent de comprendre ça. Vous avez différentes catégories de textes, le monde en marche, jalon et portrait, continuité. Continuité étant le récit principal, en quelque sorte. Et vous constatez que, ils sont regroupés par catégorie et ils ont des numéros qui permettent de leur assigner un ordre, en quelque sorte, mais qu'ils alternent. Hein, ce qu'on voit ici, c'est qu'ils alternent, c'est-à-dire que le sommaire vous offre la possibilité de les lire dans leur suite, dans leur catégorie en quelque sorte, mais le roman lui-même vous donne la possibilité, enfin vous fait lire les choses en alternant, Voilà. Et les alternances entre des choses qui sont donc des informations sur des personnages, des informations sur le monde, des informations, enfin, ou du récit sur ce qui se passe, eh bien, tout cela produit toute série de ruptures au fur et à mesure que vous lisez, c'est-à-dire que vous ne lisez jamais tout à fait la même histoire, parce que des éléments supplémentaires, des décalages supplémentaires interviennent par rapport à cela. Alors, dans cette logique de polytextualité, donc dans les, là, je vous parle finalement des moments où vous avez vraiment une alternance, un tressage en fait de différents éléments. C'est pas uniquement des éléments liminaires qui vont permettre une interrogation rétrospective. Vous avez d'autres exemples qui interviennent, enfin qu'on peut faire intervenir. En général. Très souvent, lorsqu'il y a tressage de ce type, c'est pour alerter le lecteur, c'est-à-dire pour suggérer qu'il y a plus dans ce qu'il a à lire que ce que le texte semble lui livrer immédiatement. Et donc, c'est une sorte de logique d'indice. On retrouve cette logique de l'enquête que j'avais un petit peu mis de côté parce que finalement, j'ai simplement parlé du mécanisme de lecture. Mais là, on n'est plus dans une logique d'enquête parce qu'on a le sentiment assez rapidement que des éléments nous échappent et que les différentes choses qui nous sont données doivent nous inciter à réfléchir. Et là, dans ce roman de Pierre Pelot qui s'appelle Parabellum Tango, qui est un roman de 1980, on a un environnement dystopique dans lequel il y a en fait deux espaces qui coexistent, le domaine de l'œil, donc société de surveillance, et la hors-vue, donc l'espace où on n'est pas vu. Le domaine de l'œil ayant l'apanage d'à peu près toutes les avancées techniques possibles, tandis que la hors-vue, on est à un niveau tribal, quasiment tribal, enfin en tout cas, c'est un niveau très régressif techniquement. Et la logique du domaine de l'œil, c'est évidemment de faire en sorte que ces citoyens soient le plus heureux possible. Et donc, l'objectif, c'est le bonheur. Et au fur et à mesure qu'on suit les différents personnages, on a évidemment un point de vue sur la façon dont ce bonheur peut se construire. Mais on a aussi des encarts, donc vous en voyez des exemples à la page 4. Excusez-moi, je dis page 4 parce qu'en fait, j'ai imprimé la mienne en plus gros, donc je ne sais pas où vous en êtes, mais voilà, vous êtes à page 3, pardon. Pour être sûr d'arriver à lire avec mes petits yeux. Vous avez des encarts qui vous donnent des informations ou qui vous donnent des éléments. Et ces informations sont toutes problématiques à plusieurs niveaux. Un premier niveau de problématique, c'est la première chose. Ceci est la loi de l'œil, article 1. La loi doit être prise comme telle, vénérée et entendue sans restriction aucune et sans qu'il soit admis l'exception, car elle est essentiellement, dans sa formulation globale, règle vitale de la société parfaite des citoyens protégés. Bon, là, en soi, ça semble être une sorte de bloc d'information un peu autotélique. C'est finalement la loi est la loi. Tout de même, vous avez l'affirmation claire que vous êtes dans une société de type un peu dictatorial, puisqu'elle elle impose que la loi soit acceptée, vénérée et entendue sans restriction. Bon. Seulement, ce qui est un peu particulier, c'est que dans le texte, on nous explique clairement que chaque individu a une loi personnelle. Donc, le statut de cet article 1 sur la loi de l'œil en général est un peu problématique parce que le texte ne donne pas exactement les mêmes informations. Bon, mais ça, c'est un petit décalage qui n'a pas de conséquences majeures, mais ça fait qu'on se demande un petit peu finalement ce qui se passe. Et une des choses dont on s'aperçoit assez rapidement, c'est que aussi bien dans la loi personnelle que dans la loi générale, de toute façon, en fait, tout est fait de façon à ce que, en gros, c'est la logique de l'œil qui l'emporte, quoi qu'il arrive. Et donc la loi n'existe que pour, en fait, enfermer les gens dans une obéissance et non pas comme un recours extérieur à la société, enfin à l'intérieur de la société. Vous avez des encarts plus étranges encore. Ceci est une réflexion anonyme et courante. Ici, c'est du cœur qu'on s'en va, vous comprenez ? Le cœur, la tête, ça pète, comme ça, crac, enlevé. Quel est le statut de ce texte ? Comment se fait-il que nous ayons cette chose-là ici ? Ceci est une réflexion anonyme et courante. Nous avons ici un document qui est en fait une sorte de document oral, mais oral, placé sous le statut de la généralité, et en fait, il constitue un document en fait à deux niveaux. C'est-à-dire que si vous le lisez très simplement comme étant un texte qui, enfin comme un compte-rendu oral. Bon, voilà, c'est un document qui passe. Mais la question est, comment se fait-il qu'il se trouve dans le texte ? Pourquoi est-il présent sous vos yeux ? Eh bien, il est présent sous vos yeux parce que quelqu'un a fait un acte éditorial particulier pour le mettre là. Et pourquoi le mettre là ? Eh bien, parce que c'est évidemment, comme vous le supposez, un indice particulier, cet indice étant qu'il y a quelque chose qui se joue autour du fait qu'on part comme ça, du cœur, de la tête. Il y a évidemment un enjeu sur la façon dont on élimine les éléments indésirables dans cette dystopie. Et plus étrange encore, le troisième exemple, ceci est une rampe de lancement, entre parenthèses, qui est censée pousser à une réflexion personnelle tous ceux qui normalement sont incapables d'extrapoler à partir de certaines données subjectives. Ensuite, scénario embryonnaire pour un récit dit de science-fiction qui se voudrait parabole et dénonciation d'un certain réel caché sous les masques du présent. Et là, vous avez ensuite un scénario d'un récit de science-fiction qui vous parle d'une situation dystopique avec séparation entre puissants et misérables, en gros, et qui joue comme parabole de la société de l'œil. Simplement, ce texte-là, de qui est-il ? Est-il de Pierre Pelot ? C'est-à-dire, s'adresse-t-il à nous, lecteurs, nous disant, bon, bah, si vraiment vous n'avez pas compris quelle est ma parabole dans l'histoire de l'œil et de la revue, je vais vous en remettre un autre scénario et vous allez comprendre. S'adresse-t-il à un lecteur intradigétique qui se trouve dans le monde de la fiction pour dire, bon, mais vraiment, si vous avez besoin de réfléchir et de comprendre quelle est votre situation, je vais vous faire une histoire de science-fiction, c'est-à-dire en miroir de ce que nous avons, c'est-à-dire nous lisons une histoire qui nous explique à quel point la société de surveillance nous opprime, en gros, eh bien, de la même façon, dans ce monde-là, il pourrait être utile pour des gens de lire une histoire de science-fiction qui leur explique pourquoi leur société les opprime. Donc, une fiction au deuxième niveau. Mais alors, ici, la rupture se fait dans le fait qu'il est impossible d'assigner un statut exact à ce texte. Est-il destiné à nous, depuis l'auteur, le narrateur, ou est-il destiné à quelqu'un qui s'interposerait entre nous et le texte, c'est-à-dire une sorte de lecteur idéal qui serait en fait un lecteur pris dans le monde de la fiction. Et là, il n'y a pas de réponse particulière, c'est plutôt un texte assez ouvert, hein, de ce point de vue-là, par Abelum Tango, qui joue sur des effets, des lignes de fuite, hein, encore une fois, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément, dans cette logique d'artefact, tout n'est pas forcément un grand dispositif massif, de ce point de vue-là. Alors, pour rentrer un peu plus encore dans le... Je ne vais pas forcément avoir le temps de parler beaucoup de points chauds de ce point de vue-là, malheureusement. J'ai un article sur le feu à son sujet, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je préférerais avancer sur les exemples les plus massifs qu'on ait le temps. Mais je le regrette et aller écouter Laurent Jeunefort, qui est lui aussi sur le festival. Bernard Wolf, lui, n'est pas sur le festival, malheureusement, puisque ça date quand même d'un certain temps, ce roman. Mais j'aimerais juste, pour finir, aller vers changer un peu de métaphore et me déplacer de la position de l'enquêteur à celui du joueur de jeu de rôle. Alors, l'appel de Cthulhu marchant très bien pour les deux, hein, de ce point de vue-là. Mais c'est-à-dire que dans la confrontation aux documents, il me semble que, comme j'ai déjà commencé à le suggérer à propos de Parabellum Tango, eh bien, un décalage se fait progressivement entre la position du lecteur qui se dit qu'est-ce que l'auteur a composé et comment dois-je prendre les différentes informations qu'il me donne pour faire l'histoire, et une autre position qui est celle, à mon avis, qu'on adopte un peu plus simplement, qui est mais comment faire sens de tous ces différents documents ? Et quand on fait sens de ces documents, eh bien, d'une certaine façon, il faut se placer dans la réalité de référence, c'est-à-dire se demander comment il serait reçu par les gens de la réalité en question. Et alors là, l'exemple que j'ai pris, alors Limbo, donc c'est une dystopie, c'est une dystopie maintenant uchronique pour nous, puisque c'est le futur des années 40 tel que l'avait vu Bernard Wolf. Et une des choses très importantes, il y a un jeu de mots là-dessus sur limb, donc le membre, c'est que cet environnement qu'il appelle le limbo, c'est un monde d'amputés, c'est-à-dire des gens qui se coupent volontairement les bras et les jambes pour notamment devenir des cyborgs, en fait, hein, et qui le font parce qu'ils sont pacifistes. Ce sont des cyborgs pacifistes. Ils partent du principe que s'ils se coupent les bras et les jambes, ils ne feront plus la guerre, en gros. Bon, C'est évidemment quelque chose de complètement délirant et paranoïaque. Et le texte, alors il y a toute une série de textes qui nous sont donnés à lire, et donc le personnage qui découvre cette chose-là, c'est le personnage qui est à l'origine de cette société. Mais il est à l'origine de cette société sans le savoir. En fait, il était porté disparu après la guerre des années 40, enfin une guerre mondiale, et troisième, et il a laissé derrière lui des documents. Et quand il revient à la civilisation, il se rend compte que ces documents ont été non seulement retrouvés, mais ils ont été présentés comme étant la Bible de l'amputation volontaire, en gros. Et donc, il se retrouve, notamment, ce n'est pas les seuls moments de ce moment-là, mais il se retrouve à se relire lui-même et relire ce qu'il a écrit en s'apercevant de la façon dont ça a été interprété. Et donc, on a ici l'image de cette logique de la lecture à double ou triple niveau. Et notamment parce que dans le carnet, donc c'est le professeur Martin, docteur Martin, notamment ce document, il nous est donné édité et assorti de notes d'une personne que déteste Martin, qui se présente comme son meilleur ami et qui est devenu le prophète en fait de l'IMOB, c'est-à-dire le mouvement de l'amputation. Et donc voilà, vous avez un extrait de ce texte-là. Marx corrigé par Freud, à chacun selon ses besoins, non pas ses besoins économiques, mais ses besoins masochistes. Et personne ne pourrait dire « on m'a mutilé », s'en serait fini du rouleau compresseur. Le rouleau compresseur étant l'image que Martin emploie pour parler du tempérament guerrier qui écrase génération après génération, en gros. Quand il dit, Marx corrigé par Freud, ses besoins économiques, ses besoins masochistes, clairement, il est en train de dire, les humains, ils aiment bien souffrir, il dit pas ils ont ce qu'ils méritent, mais il est en train de proposer une critique de cette logique de la tendance, justement, à l'amputation, à vouloir se tuer, s'entretuer. Et ça a été compris de façon inverse. Notez bien ce passage. Ici, pour la première fois dans l'histoire de la pensée humaine, le concept d'amputation volontaire est formulé. Mais une question se pose. Pourquoi frère Martin a-t-il associé cette nouvelle stratégie humaniste à l'idée de masochisme ? Et donc, évidemment, là, ce qui est là, vraiment manifestement placé, c'est qu'il y a évidemment plusieurs niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture où on sait que Martin n'a pas voulu l'amputation volontaire. Il y a l'explication du fait que tout ça a été lu d'une autre façon, mais il y a aussi le fait qu'on se met en quelque sorte à la place des gens contemporains de Martin qui, lisant ce texte, sont incapables de comprendre les indices que nous comprenons. Donc nous sommes, par un phénomène en gros pas de dissonance cognitive, mais de plusieurs couches d'interprétation, nous nous retrouvons à nous placer dans la position du lecteur de cette société. Bon, là, c'est assez manifeste, mais c'est souvent beaucoup plus subtil. Alors, je vais, je crois, sauter également l'exemple passionnant pourtant de Dreamericana qui nous aurait permis de reparler un peu de Tolkien, puisqu'il y a un extrait d'une étude menée par Vincent Ferré, spécialiste de Tolkien, sur Tolkien et Schöflin, qui est l'écrivain de génie mis en scène par Fabrice Collin. Sachant que, si je me souviens bien, Vincent Ferré a lui-même vraiment écrit ce texte. Le vrai Vincent Ferré, donc spécialiste de Tolkien, a écrit le texte pour Fabrice Collin, dans un jeu littéraire, en quelque sorte. Voilà. Bon, et vous pourrez lire ce passage si vous le souhaitez. La logique que je voulais simplement mettre en valeur, c'est que l'enchaînement des différents documents, j'ai parlé tout à l'heure de cette logique polytextualité, l'enchaînement des différents documents entraîne des changements de registre, parce que certains sont des textes sérieux, universitaires, d'autres sont des résumés d'histoire, d'autres sont des dialogues, là on a un message sur un répondeur laissé par Schöflin qui est complètement en délire paranoïaque et qui parle tout seul, enfin qui voilà. Mais au fur et à mesure qu'on lit ces différents éléments-là, à travers les différents changements de registre, différents indices commencent à s'accumuler. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre qu'il y a effectivement un jeu, que ce n'est pas parce qu'il est paranoïaque que personne ne lui en veut, et ainsi de suite. Donc il y a une façon de mener à travers différents documents qui se complètent peu à peu, un tableau à l'arrière-plan qui n'est jamais dit par aucun texte de la façon dont il faut comprendre la situation. Donc c'est une façon de déployer une intrigue sans directement la formuler dans le récit, simplement par différents indices, une interprétation indirecte des textes. Donc ça suppose de la part du lecteur qu'il soit capable d'interpréter et qu'il soit capable de se prêter à ce jeu-là, hein, et qu'il soit dans la position en fait, de l'investigateur de type appel de Cthulhu, de ce point de vue-là. Je précise, c'est aussi un des liens importants de ce point de vue-là, que Fabrice Collin a répété le tour de force de Norman Smirat, dont je vais parler maintenant pour finir rapidement, c'est-à-dire qu'il inclut dans son roman un roman, qui est le roman de son personnage, qui s'appelle aussi Dreamericana. Donc c'est compliqué parce que du coup il faut dire Dreamericana 1, Dreamericana 2. Bon, donc Dreamericana 2, qui est le roman dans le roman, eh bien c'est un texte complet qui est censé avoir été écrit par le personnage dont on a vu au départ à travers un certain nombre de dossiers, un dossier qui inclut de nombreux documents, comment il est passé d'un délire paranoïaque complet à un délire paranoïaque lui permettant d'écrire quand même. Pour le dire vite. Et évidemment, il y a une double interprétation de cette situation. Et lorsqu'on lit le roman Enchâssé, eh bien, comme je le suggérais tout à l'heure, en fait, ce qu'on lit, ça n'est pas, à proprement parler, une histoire racontée par Hadès Soflin. On lit quelque chose qui peut être interprété comme étant l'aventure vécue par Hadès Soflin à la place de son personnage principal. Et donc, quelque chose qui, plutôt qu'un simple artefact culturel roman, devient le récit d'une aventure vraiment vécue, mais qui est quand même un témoignage, du coup. Bon. Donc, c'est assez compliqué. Enfin, compliqué. C'est pas. Ça demanderait que je développe plus. J'aimerais quand même prendre le temps de parler de l'exemple massif qui est Rêve de fer, pour terminer. Donc, Rêve de fer, c'est un texte qui est un texte relativement militant à la part de Norman Spinrad, hein, donc une provocation majeure, puisqu'il écrit à la place d'Adolf Hitler, hein, je vais y revenir, mais il écrit à la place d'Adolf Hitler dans le but déterminé de, à la fois, dénoncer de toute façon la logique une logique qui est à l'extrémité inverse de son spectre politique à lui, hein, aussi une façon de dénoncer un certain nombre de clichés qui pouvaient subsister à son époque, en tout cas, dans la science-fiction, c'est-à-dire des fantasmes de puissance, éventuellement de pureté. Bon. Et alors, ce qui est impressionnant dans le dispositif, c'est que une fois que vous avez, alors c'est pas le cas dans Folio SF puisque vous avez une préface, une excellente préface de Roland Wagner, mais vous avez quand même une préface. Mais dans les éditions de départ, eh bien, vous ouvrez le livre qui s'appelle Rêve de fer de Norman Spinrad, et ce que vous voyez, c'est ça. Il y a rien d'autre. Vous avez la liste d'œuvres du même auteur, hein, donc vous avez Le Triomphe de la Volonté, L'Empire de Milan, La Race des Maîtres. Bon, on voit un peu quelle est son inspiration, donc il y a évidemment un jeu sur cet environnement paratextuel. Vous avez le nom Adolf Hitler, qui est écrit massivement, et le Seigneur du Svastika, et franchement, Svastika, c'est, je ne sais pas, si quelqu'un aurait envie d'écrire un titre avec Svastika dedans, ou alors pour dire L'Ombre du Svastika, pour parler du retour des néo-nazis, des choses comme ça. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui est une provocation majeure. Et alors, ce qui m'intéresse simplement, rapidement, c'est de voir un petit peu comment tout cela est conçu et quelle en est la logique. Vous avez un tout début avec ce qu'on appelle, vous savez, des petits éléments qui vous, je ne sais plus comment ça s'appelle, un texte publicitaire en haut qui vous dit à quel point c'est formidable. Et la première ligne donc du texte, c'est laissez-vous emporter par Adolf Hitler dans un lointain futur. Bon, c'est déjà ça met en situation. Et ensuite, vous avez un petit texte de présentation qui vous explique comment Adolf Hitler a écrit les choses. On comprend assez rapidement qu'on est dans un environnement uchronique dans lequel Hitler n'a jamais, en gros, après sa première tentative de putsch est partie d'Allemagne et est venue s'installer aux États-Unis, est devenu illustrateur de pulp et de là est devenu écrivain de science-fiction. Et vous avez dans cette présentation ce texte-là. La Convention mondiale de science-fiction lui décerna en 1955 un Hugo posthume pour le Seigneur du Svastika terminé juste avant sa mort en 1953. Pendant de nombreuses années, il avait été une des figures de proue des conventions et sa réputation de conteur intarissable et spirituel avait fait le tour du petit monde de la SF. Alors, bon, vous vous doutez bien que quand on lit ça, on a des doutes tout de même. Bon. Depuis l'apparition du Seigneur du Svastika, les costumes chatoyants nés de son imagination, je vous parlais du cosplay tout à l'heure, nés de son imagination sont les thèmes favoris des bals masqués. Hitler est mort, à tous les passionnés de la science-fiction, l'héritage de ses nouvelles et de ses romans. Bon, donc, si je vous ai mis ça, c'est pas simplement pour qu'on sourit du jeu que peut faire Spinrad, c'est que, vous faisant lire ça, il vous met en condition pour recevoir correctement le texte complet qu'il vous donne après, qui est le Seigneur du Svastika. C'est-à-dire que, en condition, c'est-à-dire que il vous dit bien, apprêtez-vous à lire quelque chose qui a été très bien reçu par les amateurs de science-fiction. Et donc, lisez-le comme si vous étiez susceptible de l'accepter, en quelque sorte. Et voyez ce qui se passe. Et donc, quand on le lit, je ne vous ai pas mis d'extrait du texte d'Hitler, hein, de ce point de vue-là, si ça vous intéresse, vous irez le lire vous-même. Mais on a quelque chose qui, au départ, commence pas trop mal, d'un point de vue technique, d'écriture. Et très rapidement, on commence à avoir des choses qui sont éthiquement, intellectuellement assez répugnantes, tout en jouant sur des mécanismes narratifs, c'est assez bien fait de ce point de vue-là, de la part de Spinrad, où on voit bien comment ça peut marcher. Parce que c'est une histoire héroïque, c'est une histoire de quelqu'un qui sauve son pays, enfin toutes sortes de choses. Mais évidemment, ce sont des fantasmes, des projections alternatives de l'Hitler désireux de purger l'Allemagne de tous ces éléments négatifs. Et pour que les choses soient bien claires à cet égard, vous avez ensuite, à la fin, une fois que le roman est terminé, de façon complètement délirante, une fois que le roman est terminé, eh bien, vous avez un texte d'analyse d'un critique littéraire, 1959, donc qui date de quelques années après, qui vous explique à quel point c'est un roman fétichiste, glauque, très mal écrit, voilà tout ce qu'on veut, mais il explique pourquoi ça peut être bien retenu. Alors, j'avais mis deux citations que je ne lirai pas, qui me semblent être des manières de dire, de vérifier que vous avez bien lu le roman. Enfin, je vais quand même en lire une, c'est celle page 375. À un moment donné, il est dit « Et si ce n'était pas encore suffisant, que dire du fait étonnant qu'il n'y a pas un seul personnage féminin dans le livre ?» Alors, je me considère féministe, mais c'est vrai que quand j'ai lu le roman d'Hitler, je ne me suis pas posé la question de pourquoi il n'y avait pas de femme. Je ne me suis pas posé la question, parce qu'on est entraîné par les choses. Et la question qui est posée là, c'est mais finalement, est-ce que vous l'avez bien lu? Est-ce que vous êtes rendu compte de ce qui se passait? Eh bien, il vous a présenté une histoire où il n'y a pas du tout de femme. Il est complètement misogyne. Et du coup, c'est pas une espèce de test de lecture, mais c'est une façon de montrer ce que ça signifie que. Bon. Et évidemment, ça invite à faire retour sur sa propre pratique de lecture en général. Et la dernière citation ici, sur laquelle je terminerai, enfin, je ne vais pas la lire, c'est une invitation à reconstituer c'est une sorte de. Enfin, il livre après coup la clé un peu décisive de pourquoi il peut être bien reçu. Eh bien, il peut notamment être bien reçu parce que dans cet univers alternatif, eh bien, l'Union soviétique a conquis toute l'Europe et que les États-Unis ont eu vraiment une mentalité de forteresse assiégée. Ils ont très peur de ce qui pourrait se passer vis-à-vis de la grande Union soviétique. Et donc, quelqu'un qui lit cela dans ce contexte-là peut éventuellement être favorable à l'idée d'un combat mené contre un grand pays corrupteur comme en fait l'Union soviétique, ce qui est suggéré ici. Et donc, dans le jeu de rôle qui se passe, eh bien, là, un certain nombre de clés sont données. Mais ce jeu de rôle, c'est le jeu auquel vous vous livrez, alors c'est un peu nauséeux, hein, mais auquel vous vous livrez en lisant les fantasmes d'un Hitler alternatif qui vous transporte, en fait, dans ce monde-là. Parce que vous savez, c'est ça qui est le plus important, c'est pour ça que cet exemple est aussi frappant, c'est que vous savez en le lisant que, de toute façon, cet objet-là n'est pas possible. D'un bout à l'autre. Vous savez que c'est irréconciliable avec Hitler. Et comme c'est irréconciliable avec Hitler, ben, d'une certaine façon, là, je vais parler de cette dissonance cognitive, vous ne pouvez pas être vous en train de le lire. Et donc, si quelqu'un le lit, il faut bien que ce soit quelqu'un d'autre. Bon, bref, je ne jouerai pas, ça vous rend pas paranoïaque ou schizophrène, mais la logique est tout de même là. C'est-à-dire qu'il y a une tension entre vous lisant et le destinataire potentiel lisant. Voilà. Donc là, je crois avoir fait un petit tour des différentes choses qui peuvent se passer ainsi. J'espère vous avoir incité à lire de façon un peu plus élaborée, en tout cas avec plus de questions, les textes de science-fiction qui aborderont ces éléments-là. Et je vous prie d'accepter mes plus plates excuses pour le fait que nous allons devoir donner la place à l'orateur suivant et que, par conséquent, je ne pourrai pas prendre de questions. En revanche, bien sûr, pour ceux qui souhaiteraient me poser des questions, je suis présent pendant tout le festival. Donc, si vous voulez poursuivre cette réflexion, je vous invite à venir me voir à un moment ou à un autre des jours qui suivent. Voilà, merci. Ah, juste une précision, on en trouve bien sûr ailleurs qu'en littérature. Hein. Bon, mais c'est une autre histoire.